Chapitre 15. Le cantique de la délivrance. Je chanterai à l'Éternel. Ce chapitre s'ouvre par le magnifique chant de triomphe d'Israël au bord de la mer Rouge, quand le peuple eut vu la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Chapitre 14, verset 31. Les Israélites ont vu la délivrance de l'Éternel, c'est pourquoi ils chantent sa louange et raconte ses actes puissants. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Verset 1. Jusqu'ici, nous n'avons jamais entendu de cantique de louange, pas même une seule note. Nous avons entendu le cri d'angoisse du peuple accablé sous le pénible travail des fours à briques de l'Égypte. Nous avons entendu le cri de son incrédulité, alors qu'il était environné de difficultés qu'il croyait insurmontables. Mais pas encore de cantique de louange. Ce fut seulement lorsque, comme peuple sauvé, toute l'assemblée rachetée se vit environnée d'épreuves de la délivrance de Dieu, qu'elle éclata en chant de triomphe. Ce fut quand les Israélites sortirent de leur baptême dans la nuée et dans la mer, et qu'ils purent contempler les Égyptiens morts sur le bord de la mer, chapitre 14, verset 30, que 600 000 voix chantèrent le cantique de la victoire. Les eaux de la mer Rouge les séparaient de l'Égypte, et ils étaient, eux, sur le rivage, un peuple délivré. En ceci aussi, ils sont des types pour nous. Il faut que nous nous sachions sauvés par la puissance de la mort et de la résurrection pour que nous puissions offrir à Dieu un culte intelligent. Hors de là, il y aura toujours de la réserve et de l'hésitation dans l'âme, traduisant l'incapacité à saisir la valeur de la rédemption accomplie par Jésus-Christ. On reconnaîtra peut-être le fait que le salut est en Christ et en aucun autre. Mais c'est là tout autre chose que de saisir, par la foi, le vrai caractère et le fondement de ce salut, et de le réaliser comme nôtre. L'Esprit de Dieu révèle dans l'Écriture, avec une parfaite clarté, que nous sommes unis à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, et que Christ ressuscité, à la droite de Dieu, est la mesure et le gage de notre acceptation. Quand on croit cela, l'âme est transportée au-delà de la région du doute et de l'incertitude. Comment un chrétien peut-il douter quand il sait qu'un avocat, savoir Jésus-Christ le juste, le représente continuellement devant le trône de Dieu? 1 Jean 2, verset 1. Le plus faible croyant a le privilège de savoir qu'il a été représenté par Christ sur la croix et que tous ses péchés ont été portés, jugés et expiés sur cette croix. C'est là une réalité divine qui, saisie par la foi, donne la paix. Mais il ne faut rien de moins que cette réalité pour la donner. On pourra observer pieusement toutes les ordonnances et tous les devoirs de la religion, mais le seul moyen de délivrer entièrement la conscience du sentiment du péché, c'est de voir le péché jugé dans la personne de Christ, élevé comme offrande pour le péché sur le bois maudit. Voir Hébreux 9, verset 26 et 10, verset 1 à 18. Si le péché a été jugé là, une fois pour toutes, le croyant peut considérer la question du péché comme une chose divinement et éternellement réglée. Et ce qui prouve que le péché a été ainsi jugé, c'est la résurrection de Christ. J'ai connu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher, et Dieu le fait afin que, devant lui, on craigne. Ecclésiaste 3, verset 14. Cependant, bien qu'on admette tout cela comme vrai dans un sens général, un grand nombre de personnes ont beaucoup de peine à s'en faire l'application à elles-mêmes. Elles regardent à elles-mêmes au lieu de regarder à Christ. Elles sont plutôt occupées de l'application qu'elles se font à elles-mêmes de Christ que de Christ lui-même. Elles pensent à leurs capacités plutôt qu'à leurs privilèges. Elles sont ainsi retenues dans un état d'incertitude et ne peuvent, par conséquent, jamais prendre la place d'adorateur heureux et intelligent. Elles prient pour demander le salut au lieu de se réjouir dans la possession du salut. Elles regardent à leurs œuvres imparfaites au lieu de regarder à l'expiation parfaite de Christ. Dieu glorifié. Or, en parcourant les différentes strophes de ce cantique du chapitre 15 de l'Exode, nous n'en trouvons pas une seule qui concerne le moi, ses actions, ses paroles ou ses sentiments. Tout se rapporte à l'Éternel. Moïse commence ainsi. « Je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. » Ces paroles sont un spécimen du cantique tout entier. D'un bout à l'autre, il ne parle que des attributs et des faits de l'Éternel. Au chapitre 14, le cœur du peuple avait, en quelque sorte, été mis à l'étroit sous la pression excessive des circonstances. Mais au chapitre 15, le fardeau est ôté. Et le cœur du peuple s'épanche librement dans un cantique de louange. Le moi est oublié, les circonstances sont perdues de vue. On ne voit qu'un seul objet, le Seigneur lui-même dans son caractère et dans ses voies. Israël pouvait dire « Ô Éternel, tu m'as réjoui par tes actes. Je chanterai de joie à cause des œuvres de tes mains. » Psaume 92, verset 4. C'est là le vrai culte. Quand nous perdons de vue notre misérable moi avec tout ce qui y tient, et que Christ seul remplit nos cœurs, c'est alors que nous pouvons offrir à Dieu un culte convenable. Que le cœur soit seulement occupé de la personne de Christ, et des cantiques de louange s'en élèveront naturellement. Si nous contemplons le culte des armées qui entourent le trône de Dieu et de l'agneau, nous verrons qu'il est toujours provoqué par quelque trait spécial de la perfection divine ou de ses voies. Il devrait en être ainsi de l'Église sur la terre. Et quand il en est autrement, c'est que nous nous sommes laissés envahir par des choses qui n'ont aucune place dans les régions de la pure lumière et du bonheur parfait. Dans tout vrai culte, Dieu lui-même est à la fois l'objet du culte, le sujet du culte et la puissance du culte. Ainsi, le chapitre qui nous occupe est un bel exemple d'un cantique de louange. C'est le langage d'un peuple racheté, célébrant la louange de celui qui les a rachetés. Jah est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation. Le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. Ta droite, ô Éternel, s'est montrée magnifique en force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, terrible en louange, opérant des merveilles? Tu as conduit par ta bonté ce peuple que tu as racheté. Tu l'as guidé par ta force jusqu'à la demeure de ta sainteté. L'Éternel régnera à toujours et à perpétuité. Quelle sphère étendue ce cantique embrasse! Il commence par la rédemption et se termine par la gloire. Il commence par la croix et se termine par le royaume. Il ressemble à un bel arc-en-ciel dont l'une des extrémités plonge dans les souffrances et l'autre dans les gloires qui suivront. 1 Pierre 1, verset 11. Tout concerne l'Éternel. C'est une effusion de l'âme produite par une contemplation du Dieu de miséricorde et de gloire et de ses faits merveilleux. De plus, le cantique fait mention de l'accomplissement présent du dessein de Dieu. Tu l'as guidé par ta force jusqu'à la demeure de ta sainteté. Verset 13. Les enfants d'Israël pouvaient parler ainsi, bien qu'ils n'aient encore fait que poser le pied sur le bord du désert. Leur cantique n'était pas l'expression d'une vague espérance. Non, quand l'âme n'est occupée que de Dieu, elle peut se plonger dans la plénitude de sa grâce et se réjouir dans les abondantes richesses de sa miséricorde et de sa bonté. La perspective qui s'ouvre devant elle est libre de tout nuage. Se plaçant sur le roc où l'amour d'un Dieu sauveur l'a établi, unie à un Christ ressuscité, elle contemple les plans et les desseins de Dieu et se réjouit dans la gloire que Dieu a préparée pour tous ceux qui ont lavé et blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Ceci explique le caractère si brillant et si élevé des cantiques de louange que nous rencontrons dans toute l'Écriture sainte. La créature est mise de côté. Dieu est l'unique objet et remplit l'âme. C'est pourquoi la louange peut retentir sans cesse. Combien ces cantiques sont différents des chants tout remplis de l'expression de nos faiblesses et de notre insuffisance, que nous entendons si souvent dans les assemblées chrétiennes. Nous ne pouvons jamais chanter avec puissance et intelligence spirituelle quand nous regardons à nous-mêmes, car nous découvrons toujours en nous quelque chose qui tend à entraver notre culte. De fait, beaucoup de personnes semblent estimer qu'être dans un état continuel de doute et d'incertitude est une grâce chrétienne. Il en résulte que leurs hymnes participent du caractère de leur état. Ces personnes, quelque sincères et pieuses qu'elles puissent être, n'ont point encore saisi le véritable terrain du culte. Elles n'en ont pas encore fini avec elles-mêmes. Elles n'ont pas encore traversé la mer et, comme un peuple baptisé d'un baptême spirituel, pris place sur le rivage de la résurrection. Elles sont encore occupées d'elles-mêmes. Elles ne regardent pas le moi comme une chose crucifiée avec laquelle Dieu en a fini pour toujours. Puisse le Saint-Esprit donner à tous les enfants de Dieu une intelligence plus complète et plus digne de leur position et de leurs privilèges. Qu'il leur fasse comprendre que, lavés de leurs péchés dans le sang de Christ, ils sont devant Dieu dans cette faveur infinie dans laquelle Christ est lui-même. Les doutes et les craintes ne conviennent pas aux enfants de Dieu, car leur Sauveur n'a rien fait sur quoi ils puissent élever un doute ou une crainte. Leur place est en dedans du voile. Ils ont une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. Hébreux 10, verset 19. Y a-t-il des doutes et des craintes dans les lieux saints? Celui qui doute met en question la perfection de l'œuvre de Christ, cette œuvre à laquelle Dieu a rendu témoignage par la résurrection. C'est donc le privilège du chrétien de se réjouir toujours dans un salut parfait. Dieu lui-même est devenu son salut, et il n'a autre chose à faire qu'à jouir des fruits de l'œuvre que Dieu a opérée pour lui et à vivre pour sa gloire, en attendant le temps où l'Éternel règnera à toujours et à perpétuité. Verset 18. L'habitation de Dieu avec les hommes. Mais il y a, dans le cantique de Moïse et des enfants d'Israël, un passage sur lequel je voudrais attirer l'attention de mon lecteur. Il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation. Verset 2. Au moment où leur cœur débordait de la joie de la rédemption, ils exprimaient le vœu d'élever à Dieu une habitation. Lecteur chrétien, méditez bien ceci. La pensée de Dieu habitant avec l'homme se retrouve partout dans l'Écriture, depuis le chapitre 15 de l'Exode jusqu'à l'Apocalypse. Écoutez le langage d'un cœur engagé. Si j'entre dans la demeure de ma maison, si je monte sur le lit où je couche, si je permets à mes yeux de dormir, à mes paupières de sommeiller, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, des demeures pour le puissant de Jacob. Psaume 132, versets 3 à 5. Et encore, car le zèle de ta maison m'a dévoré. Psaume 69, verset 9, Jean 2, verset 17. Je ne poursuivrai pas ici ce sujet, mais je voudrais pouvoir y intéresser le cœur du lecteur pour qu'il l'étudie lui-même avec prière, depuis la première mention qui en est faite dans l'Écriture, jusqu'à cette bienheureuse et consolante déclaration. Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21, versets 3 et 4. Le départ pour le désert. Et Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, et ils sortirent vers le désert de Shur, et ils marchèrent 3 jours dans le désert, et ne trouvèrent point d'eau. Verset 22. C'est quand nous entrons expérimentalement dans le désert que nous sommes mis à l'épreuve, afin qu'il apparaisse jusqu'à quel point nous connaissons Dieu et notre propre cœur. Le commencement de notre carrière chrétienne est facilement accompagné d'une fraîcheur et d'une exubérance de joie que tempère ensuite le vent desséchant du désert. Alors, à moins que nous n'ayons le sentiment profond de ce que Dieu est pour nous, nous sommes enclins à nous laisser abattre et à retourner de notre cœur en Égypte. Acte 7, verset 39. La discipline du désert est nécessaire, non pour nous procurer un droit à Canaan, mais pour nous apprendre à connaître Dieu et notre propre cœur. Elle nous met en état de saisir la puissance de notre relation avec Dieu et nous rend plus capables de jouir de Canaan quand nous y serons réellement entrés. Voyez Deutéronome 8, versets 2 à 5. La fraîche et luxuriante verdure du printemps, avec ce charme qui lui est particulier, passe bientôt devant les brûlantes chaleurs de l'été. Mais cette même chaleur produit, par son action bienfaisante, les fruits doux et mûrs de l'automne. Il en est de même dans la vie chrétienne. Nous pouvons contempler les Israélites dans 3 positions distinctes. En Égypte, dans le désert et dans le pays de Canaan. Dans chacune de ces positions, ils sont des types des chrétiens, mais nous sommes dans ces trois positions à la fois. Cela peut paraître paradoxal, mais il en est bien ainsi. Quant à nos corps, nous sommes en Égypte, environnés des choses de ce monde, qui conviennent parfaitement au cœur naturel. Mais la grâce de Dieu nous ayant appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, conformément aux affections et aux désirs de la nouvelle nature que nous avons reçue de lui, nous avons nécessairement notre place en dehors de tout ce qui appartient à l'Égypte, c'est-à-dire au monde dans son état naturel. Ceci nous fait faire l'expérience de ce qu'est le désert. La nature divine soupire ardemment après un autre ordre de choses, après une atmosphère plus pure que celle dont nous sommes environnés, et nous fait ainsi sentir que ce monde est, moralement, un désert. Cependant, nous sommes devant Dieu associés avec celui qui est entré triomphalement dans les lieux célestes et y a pris place à la droite de la majesté. C'est notre heureux privilège de savoir que, par la foi, nous y sommes assis ensemble en lui. Éphésiens 2, verset 6. Donc, bien que, quant à nos corps, nous soyons en Égypte, nous sommes cependant, quant à notre expérience, dans le désert. Et en même temps, la foi nous fait entrer en esprit, en Canaan, et nous rend capables de nous nourrir là du vieux blé du pays, c'est-à-dire de Christ. Non pas seulement de Christ descendu sur la terre, mais de Christ monté au ciel et assis là dans la gloire. Voir 1 Timothée 3, verset 16. Mara et les eaux amères. Les derniers versets du chapitre 15 nous font voir Israël dans le désert. Des jugements terribles avaient éclaté sur l'Égypte, tandis qu'Israël en avait été épargné. L'armée égyptienne était morte sur le rivage, et Israël avait été délivré. Tout allait très bien. Mais hélas, les chants de louanges font maintenant place à des paroles de murmures. Et ils vinrent à Mara, mais ils ne pouvaient boire des eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pourquoi son nom fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse, disant « Que boirons-nous » Versets 23 et 24. Et encore « Et toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Et les fils d'Israël leur dirent « Ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès des pots de chair, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette congrégation. » Chapitre 16, versets 2 et 3. C'étaient là les épreuves du désert. Que mangerons-nous et que boirons-nous? Les eaux de Mara mirent à l'épreuve le cœur du peuple d'Israël et manifestèrent son esprit de mécontentement. Mais l'Éternel lui fit voir qu'il n'y avait aucune amertume que, par les ressources de sa grâce, il ne put adoucir. Et l'Éternel enseigna à Moïse un bois, et le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Là, il lui donna un statut et une ordonnance, et là, il l'éprouva. Chapitre 15, verset 25. Quelle belle image ce bois n'est-il pas de celui qui, par une grâce infinie, fut jeté dans les eaux amères de la mort, afin qu'elle soit rendue douce pour nous, à toujours. Nous pouvons dire en vérité, l'amertume de la mort est passée. Il ne reste pour nous que les douceurs éternelles de la résurrection. Le verset 26 nous montre tout ce qu'il y a de sérieux dans la première période de la carrière des rachetés de Dieu dans le désert. Durant cette période, on court le risque de se laisser aller à un esprit d'impatience et de murmure. Le seul moyen d'être préservé de cet esprit, c'est d'avoir les yeux fermement arrêtés sur Jésus. Fixant les yeux sur Jésus. Hébreux 12, verset 2. Il se manifeste toujours d'une manière appropriée aux besoins de son peuple. Et les siens, au lieu de se plaindre des circonstances dans lesquelles ils se trouvent, devraient chaque fois en prendre occasion pour faire appel à lui. Le désert sert ainsi à nous faire l'expérience de ce que Dieu est. C'est une école dans laquelle nous apprenons à connaître sa grâce patiente et ses abondantes ressources. Et il prit soin d'eux dans le désert, comme une mère, environ 40 ans. Acte 13, verset 18. Il vaut la peine de rencontrer des eaux amères que Dieu vient adoucir. Nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, versets 3 à 5. Élim, les fontaines et les palmiers. Toutefois, le désert a ses élim aussi bien que ses maras, ses fontaines et ses palmiers aussi bien que ses eaux amères. Puis ils vinrent à Élim, où il y avait 12 fontaines d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là auprès des eaux. Verset 27. Le Seigneur, dans sa grâce et sa tendresse, prépare des lieux verdoyants sur le chemin de son peuple qui voyage dans le désert. Et, quoique ce ne soit que des oasis, ils rafraîchissent l'esprit et raniment le cœur. Le séjour à Élim était bien propre à calmer les cœurs des Israélites et à faire taire leurs murmures. L'ombrage de ses palmiers et les eaux rafraîchissantes de ses fontaines venaient à propos après l'épreuve de Marat. Il nous présente en figure les vertus excellentes de ce ministère spirituel dont Dieu prend soin de pourvoir son peuple ici-bas. Les 12 et les 70 sont des nombres qui ont un rapport intime avec le ministère. Luc 10, versets 1 et 17, et 6, verset 13. Mais Élim n'était pas Canaan. Ses fontaines et ses palmiers n'étaient que des avant-goûts de leur pays situé au-delà du désert dans lequel les rachetés venaient d'entrer. Israël pouvait sans doute s'y abreuver et y trouver un abri, mais les eaux et l'ombrage étaient ceux du désert. Ils n'étaient que pour un moment, afin de ranimer et de fortifier le peuple pour sa marche vers Canaan. Il en est de même du ministère dans l'Église. Il est une ressource pour nos besoins qui doit servir à nous désaltérer, à nous fortifier et à nous encourager, jusqu'à ce que nous parvenions tous à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Éphésiens 4, verset 13.